7. Le haut commerce, les tartares, Tartarin de Tarascon serait-il un imposteur, le mirage. Une fois cependant, Tartarin avait failli partir pour un grand voyage. Les trois frères, Gathio Camus, des Tarasconnais établis à Shanghai, lui avaient offert la direction d'un de leurs comptoirs là-bas. Ça, par exemple, c'était bien la vie qu'il lui fallait. Des affaires considérables, tout un monde de commis à gouverner, des relations avec la Russie, la Perse, la Turquie d'Asie, enfin le haut commerce. Dans la bouche de Tartarin, ce mot de haut commerce vous apparaissait d'une hauteur. La maison de Garcio Camus avait en outre cet avantage qu'on y recevait quelquefois la visite des Tartares, alors vite on fermait les portes. Tous les commis prenaient les armes, on hissait le drapeau consulaire et pam 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 par les fenêtres sur les Tartares. Avec quel enthousiasme Tartarin Quichotte sauta sur cette proposition, je n'ai pas besoin de vous le dire. Par malheur, Tartarin Sancho n'entendait pas de cette oreille. Et comme il était le plus fort, l'affaire ne peut pas s'arranger. Dans la ville, on en parla beaucoup. Partira-t-il? Ne partira-t-il pas? Parions que si, parions que non. Ce fut un événement. En fin de compte, Tartarin ne partit pas. Mais toutefois, cette histoire lui fit beaucoup d'honneur. Avoir failli aller à Shanghai, ou y être allé pour Tarascon, c'était tout comme. À force de parler du voyage de Tartarin, on finit par croire qu'il en revenait. Et le soir au cercle, tous ces messieurs lui demandaient des renseignements sur la vie à Shanghai, sur les mœurs, le climat, l'opium, le haut commerce. Tartarin, très bien renseigné, donnait de bonne grâce les détails qu'on voulait. Et à la longue, le brave homme n'était pas bien sûr lui-même de n'être pas allé à Shanghai, si bien qu'en racontant pour la 100e fois la descente des Tartares, il en arrivait à dire très naturellement « Alors, je fais armer mes commis, je hisse le pavillon consulaire et pam, pam, pam par les fenêtres sur les Tartares !» En entendant cela, tout le monde frémissait. Mais alors, votre Tartarin n'était qu'un affreux menteur. Non, mille fois non. Tartarin n'était pas un menteur. Oh, pourtant, il devait bien savoir qu'il n'était pas allé à Shanghai. Et sans doute, il le savait. Seulement, écoutez bien ceci. Il est temps de s'entendre une fois pour toutes sur cette réputation de menteur que les gens du Nord ont faite aux méridionaux. Il n'y a pas de menteur dans le Midi, pas plus à Marseille qu'à Nîmes, qu'à Toulouse, qu'à Tarascon. L'homme du Midi ne ment pas, il se trompe. Il ne dit pas toujours la vérité, mais il croit la dire. Son mensonge à lui, ce n'est pas du mensonge, c'est une espèce de mirage. Oui, du mirage. Et pour bien me comprendre, allez-vous-en dans le Midi et vous verrez. Vous verrez ce diable de pays où le soleil transfigure tout et fait tout plus grand que nature. Vous verrez ces petites collines de Provence, pas plus hautes que la butte Montmartre, et qui vous paraîtront gigantesques. Vous verrez la maison carrée de Nîmes, un petit bijou d'étagère qui vous semblera aussi grand que Notre-Dame. Vous verrez, oh, le seul menteur du Midi, s'il y en a un, c'est le soleil. Tout ce qu'il touche, il l'exagère. Mais qu'est-ce que c'était que Sparte au temps de sa splendeur? Une bourgade? Qu'est-ce que c'était qu'Athènes? Tout au plus une sous-préfecture? Et pourtant, dans l'histoire, elles nous apparaissent comme des villes énormes. Voilà ce que le soleil a fait. Vous étonnerez-vous, après cela, que le même soleil tombant sur Tarascon ait pu faire d'un ancien capitaine d'habillement comme Bravida le brave commandant Bravida, d'un navet, un baobab, et d'un homme qui avait failli aller à Shanghai, un homme qui y était allé. 8. La ménagerie mitaine, un lion de l'Atlas à Tarascon, terrible et solennelle entrevue. Et maintenant que nous avons montré Tartarin de Tarascon comme il était en son privé, avant que la gloire l'eût baisé au front et coiffé du laurier séculaire, maintenant que nous avons raconté cette vie héroïque dans un milieu modeste, ses joies, ses douleurs, ses rêves, ses espérances, hâtons-nous d'arriver aux grandes pages de son histoire et au singulier événement qui devait donner l'essor à cette incomparable destinée. C'était un soir, chez l'armurier Costecalde, Tartarin de Tarascon était en train de démontrer à quelques amateurs le maniement du fusil à aiguille, alors dans toute sa nouveauté. Soudain, la porte s'ouvre, et un chasseur de casquettes se précipite effaré dans la boutique en criant « Un lion ! Un lion !» Stupeur générale, effroi, tumulte, bousculade, Tartarin croise la baïonnette, Costecalde court fermer la porte, on entoure le chasseur, on l'interroge, on le presse, et voici ce qu'on apprend. La ménagerie mitaine, revenant de la foire de Beaucaire, avait consenti à faire une halte de quelques jours à Tarascon et venait de s'installer sur la place du château avec un tas de boas, de phoques, de crocodiles et un magnifique lion de l'Atlas. Un lion de l'Atlas à Tarascon ! Jamais de mémoire d'homme, pareille chose ne s'était vue. Aussi, comme nos braves chasseurs de casquettes se regardaient fièrement, quel rayonnement sur leur pâle visage et dans tous les coins de la boutique Costecalde, quelle bonne poignée de main silencieusement échangée. L'émotion était si grande, si imprévue, que personne ne trouvait un mot à dire, pas même Tartarin. Pâle et frémissant, le fusil à aiguille encore entre les mains, il songeait debout devant le comptoir. Un lion de l'Atlas, là, tout près, à deux pas. Un lion, c'est-à-dire la bête héroïque et féroce par excellence, le roi des fauves, le gibier de ses rêves, quelque chose comme le premier sujet de cette troupe idéale qui lui jouait le si beau drame dans son imagination. Un lion, mille dieux, et de l'Atlas encore. C'était plus que le grand Tartarin ne pouvait supporter. Tout à coup, un paquet de sang lui monta au visage. Ses yeux flambèrent. D'un geste convulsif, il jeta le fusil à aiguille sur son épaule et, se tournant vers le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, il lui dit d'une voix de tonnerre « Allons voir ça, commandant ! Eh bien, mon fusil à aiguille que vous emportez !» hasarda timidement le prudent Costecalde. Mais Tartarin avait tourné la rue, et derrière lui, tous les chasseurs de casquettes, emboîtant fièrement le pas. Quand ils arrivèrent à la ménagerie, il y avait déjà beaucoup de monde. Tarascon, race héroïque, mais trop longtemps privée de spectacle à sensation, s'était ruée sur la baraque mitaine et l'avait prise d'assaut. Aussi la grosse madame mitaine était bien contente. En costume kabyle, les bras nus jusqu'aux coudes, des bracelets de fer aux chevilles, une cravache dans une main, dans l'autre un poulet vivant, quoique plumé, l'illustre dame faisait les honneurs de la baraque aux Tarasconnais. Et comme elle avait double muscle, elle aussi, son succès était presque aussi grand que celui de ses pensionnaires. Entré le Tamarin, le fusil sur l'épaule, jeta un froid. Tous ces braves Tarasconnais, qui se promenaient bien tranquillement devant les cages, sans armes, sans méfiance, sans même aucune idée de danger, eurent un mouvement de terreur assez naturel en voyant leur grand Tartarin entrer dans la baraque avec son formidable engin de guerre. Il y avait donc quelque chose à craindre, puisque lui, ce héros, en un clin d'œil, tout le devant des cages se trouva dégarni. Les enfants criaient de peur, les dames regardaient la porte, Le pharmacien Bézuquet s'esquiva en disant qu'il allait chercher son fusil. Peu à peu, cependant, l'attitude de Tartarin rassura les courages. Calme, la tête haute, l'intrépide Tarasconnais fit lentement le tour de la baraque, passa sans s'arrêter devant la baignoire du phoque, regarda d'un œil dédaigneux la longue caisse pleine de son où le boa digérait son poulet cru, et vint enfin se planter devant la cage du lion. Terrible et solennelle entrevue! Le lion de Tarascon et le lion de l'Atlas en face l'un de l'autre. D'un côté, Tamarin debout, le jarret tendu, les deux bras appuyés sur son rifle. De l'autre, le lion, un lion gigantesque, vautré dans la paille, l'œil clignotant, l'air abruti, avec son énorme buffle à perruque jaune posée sur les pattes de devant. Tous deux, calmes et se regardant. Chose singulière, soit que le fusil à aiguille lui donnait de l'humeur, soit qu'il eût flairé un ennemi de sa race, le lion, qui jusque-là avait regardé les Tarasconnais d'un air de souverain mépris, en leur bâillant au nez à tous, le lion eut tout à coup un mouvement de colère. D'abord il renifla, gronda sourdement, écarta ses griffes et étira ses pattes, puis il se leva, dressa la tête, secoua sa crinière, ouvrit une gueule immense et poussa vers Tartarin un formidable rugissement. Un cri de terreur lui répondit. Tarascon, affolé, se précipita vers les portes. Tous, femmes, enfants, portefeuilles, chasseurs de casquettes, le brave commandant Bravida lui-même. Seul, Tartarin de Tarascon ne bougea pas. Il était là, ferme et résolu, devant la cage, des éclairs dans les yeux et cette terrible moue que toute la ville connaissait. Au bout d'un moment, quand les chasseurs de casquettes, un peu rassurés par son attitude et la solidité des barreaux, se rapprochèrent de leur chef, ils entendirent qu'il murmurait en regardant le lion « Ça, oui, c'est une chasse !» Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage. 9. Singuliers effets du mirage. Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage, mais le malheureux en avait déjà trop dit. Le lendemain, il n'était bruit dans la ville que du prochain départ de Tartarin pour l'Algérie et la chasse au lion. Vous êtes témoin, cher lecteur, que le brave homme n'avait pas soufflé mot de cela. Mais vous savez, le mirage... Bref, tout Tarascon ne parlait que de ce départ. Sur le cours, au cercle, chez Costecalde, les gens s'abordaient d'un air effaré. Et autrement, vous savez la nouvelle au moins? Et autrement, quoi donc? Le départ de Tartarin au moins? Car à Tarascon, toutes les phrases commencent par « et autrement » qu'on prononce « autrement » et finissent par « au moins » qu'on prononce « au moins ». Or, ce jour-là, plus que tous les autres, les « au moins » et les « autres mains » sonnaient à faire trembler les vitres. L'homme le plus surpris de la ville, en apprenant qu'il allait partir pour l'Afrique, ce fut Tartarin. Mais voyez ce que c'est que la vanité. Au lieu de répondre simplement qu'il ne partait pas du tout, qu'il n'avait jamais eu l'intention de partir, le pauvre Tartarin... La première fois qu'on lui parla de ce voyage, fit d'un petit air évasif, peut-être, je ne dis pas. La seconde fois, un peu plus familiarisé avec cette idée, il répondit, oh, c'est probable. La troisième fois, c'est certain. Enfin, le soir, au cercle et chez les Costecalde, entraînés par le punch aux œufs, les bravos, les lumières, grisés par le succès que l'annonce de son départ avait eu dans la ville, le malheureux déclara formellement qu'il était las de chasser la casquette et qu'il allait avant peu se mettre à la poursuite des grands lions de l'Atlas. Un hourra formidable accueillit cette déclaration. Là-dessus, nouveau ponche aux œufs, poignée de main, accolade et sérénade au flambeau, jusqu'à minuit devant la petite maison du Baobab. Ces Tartarins sont chauds, qui n'étaient pas contents. Cette idée de voyage en Afrique et de chasse au lion lui donnait le frisson par avance. Et en rentrant au logis pendant que la sérénade d'honneur sonnait sous leur fenêtre, il fit à Tartarin Quichotte une scène effroyable, l'appelant toqué, visionnaire, imprudent, triple fou, lui détaillant par le menu toutes les catastrophes qui l'attendaient dans cette expédition, naufrage, rhumatisme, fièvre chaude, dysenterie, peste noire, éléphantiasiste et le reste. En vain Tartarin Quichotte jurait-il de ne pas faire d'imprudence, donc il se couvrirait bien, qu'il emporterait tout ce qu'il faudrait. Tartarin sans chaud ne voulait rien entendre. Le pauvre homme se voyait déjà déchiqueté par les lions, englouti dans les sables du désert comme feu Cambyse, et l'autre Tartarin ne parvint à l'apaiser un peu qu'en lui expliquant que c'était pas pour tout de suite, que rien ne pressait, et qu'en fin de compte, il n'était pas encore parti. Il est bien clair, en effet, qu'on ne s'embarque pas pour une expédition semblable sans prendre quelques précautions. Il faut savoir où l'on va, que diable, et ne pas partir comme un oiseau. Avant toute chose, le Tarasconnais voulut lire les récits des grands touristes africains, les relations de Mungo Park, de Caillé, du docteur Livingstone, de Henri Duverrier. Là, il vit que ces intrépides voyageurs, avant de chausser leurs sandales pour les excursions lointaines, s'étaient préparés de longues mains à supporter la faim, la soif, les marches forcées, les privations de toutes sortes. Tartarin voulut faire comme eux, et à partir de ce jour-là, ne se nourrit plus que d'eau bouillie. Ce qu'on appelle eau bouillie à Tarascon, c'est quelques tranches de pain noyées dans de l'eau chaude avec une gousse d'ail, un peu de thym et un brin de laurier. Le régime était sévère, et vous pensez si le pauvre Sancho fit la grimace. À l'entraînement par l'eau bouillie, Tartarin de Tarascon joignit d'autres sages pratiques. Ainsi, pour prendre l'habitude des longues marches, il s'astreignit à faire chaque matin son tour de la ville 7 et 8 fois de suite, tantôt au pas accéléré, tantôt au pas gymnastique, les coudes au corps et de petits cailloux blancs dans la bouche, selon la mode antique. Puis, pour se faire aux fraîcheurs nocturnes, aux brouillards, à la rosée, il descendait tous les soirs dans son jardin et restait là jusqu'à des 10 et 11 heures, seul avec son fusil, à l'affût derrière le baobab. Enfin, tant que la ménagerie mitaine resta à Tarascon, les chasseurs de casquettes attardés chez Costecade purent voir dans l'ombre, en passant sur la place du château, un homme mystérieux se promenant de long en large derrière la baraque. C'était Tartarin de Tarascon qui s'habituait à entendre sans frémir les rugissements du lion dans la nuit sombre. X avant le départ. Pendant que Tartarin s'entraînait ainsi par toutes sortes de moyens héroïques, tout Tarascon avait les yeux sur lui. On ne s'occupait plus d'autre chose. La chasse à la casquette ne battait plus que d'une aile. Les romans se chômaient. Dans la pharmacie Bézuquet, le piano languissait sous une housse verte et les mouches cantharides séchaient dessus, le ventre en l'air. L'expédition de Tartarin avait tout arrêté. Il fallait voir le succès du Tarasconnais dans les salons. On se l'arrachait, on se le disputait, on se l'empruntait, on se le volait. Il n'y avait pas de plus grand honneur pour les dames que d'aller à la ménagerie mitaine au bras de Tartarin, et de se faire expliquer devant la cage au lion comment on s'y prenait pour chasser ces grandes bêtes, où il fallait viser, à combien de pas, si les accidents étaient nombreux, etc., etc. Tartarin donnait toutes les explications qu'on voulait. Il avait vu Jules Gérard et connaissait la chasse au lion sur le bout du doigt, comme s'il l'avait faite. Aussi parlait-il de ces choses avec une grande éloquence. Mais où il était le plus beau, c'était le soir à dîner, chez le président Ladevèze ou chez le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, quand on apportait le café et que toutes les chaises se rapprochant, on le faisait parler de ses chasses futures. Alors, le coude sur la nappe, le nez dans son moka, le héros racontait d'une voix émue tous les dangers qui l'attendraient là-bas. Il disait les longs affûts sans lune, les marais pestilentiels, les rivières empoisonnées par la feuille du laurier rose. Les neiges, les soleils ardents, les scorpions, les pluies de sauterelles. Il disait aussi les mœurs des grands lions de l'Atlas, leur façon de combattre, leur vigueur phénoménale et leur férocité au temps du rut. Puis, s'exaltant à son propre récit, il se levait de table, bondissait au milieu de la salle à manger, imitant le cri du lion, le bruit d'une carabine, pam pam, le sifflement d'une balle explosive, gesticulait, rugissait, renversait les chaises. Autour de la table, tout le monde était pâle. Les hommes se regardaient en hochant la tête, les dames fermaient les yeux avec de petits cris d'effroi, les vieillards brandissaient leurs longues cannes belliqueusement, et dans la chambre à côté, les petits garçonnets qu'on couche de bonne heure, éveillés en sursaut par les rugissements et les coups de feu, avaient grand peur et demandaient de la lumière. En attendant, Tartarin ne partait pas. 11. Des coups d'épée. Messieurs, des coups d'épée, mais pas de coups d'épingle. Avait-il bien réellement l'intention de partir ? Question délicate et à laquelle l'historien de Tartarin serait fort embarrassé de répondre. Toujours est-il que la ménagerie mitaine avait quitté Tarascon depuis plus de 3 mois et le tueur de lions ne bougeait pas. Après tout, peut-être le candide héros, aveuglé par un nouveau mirage, se figurait-il de bonne foi qu'il était allé en Algérie ? Peut-être qu'à force de raconter ses futures chasses, il s'imaginait les avoir faites aussi sincèrement qu'il s'imaginait avoir hissé le drapeau consulaire et tiré sur les Tartares, pan-pan, à Shanghai. Malheureusement, si cette fois encore le Tartarin de Tarascon fut victime du mirage, les Tarasconnais ne le furent pas. Lorsqu'au bout de 3 mois d'attente, on s'aperçut que le chasseur n'avait pas encore fait une malle, on commença à murmurer « Ce sera comme pour Shanghai !» disait Costecalde en souriant. Et le mot de l'armurier fit fureur dans la ville, car personne ne croyait plus en Tartarin. Les naïfs, les poltrons, des gens comme Bézuquet, qu'une puce aurait mis en fuite et qui ne pouvaient pas tirer un coup de fusil sans fermer les yeux, ceux-là surtout étaient impitoyables au cercle sur l'esplanade. Ils abordaient le pauvre Tartarin avec de petits airs goguenards. Et autrement, pour quand ce voyage ? Dans la boutique Costecalde, son opinion ne faisait plus foi. Les chasseurs de casquettes reniaient leur chef. Puis les épigrammes s'en mêlèrent. Le président Ladevèze, qui faisait volontiers en ses heures de loisirs 2 doigts de cour à la muse provençale, composa dans la langue du cru une chanson qui eut beaucoup de succès. Il était question d'un certain grand chasseur appelé Maître Gervais, dont le fusil redoutable devait exterminer jusqu'au dernier tous les lions d'Afrique. Par malheur, ce diable de fusil était de complexion singulière. On le chargeait toujours et il ne partait jamais. Il ne partait jamais, vous comprenez l'allusion. En un tour de main, cette chanson devint populaire. Et quand Tartarin passait, les portefaix du quai, les petits décrotteurs de devant sa porte chantaient en chœur « Lou fusiou de Mestre Gervais, toujours lou cargon, toujours lou cargon. Lou fusiou de Mestre Gervais, toujours lou cargon, par jamais. » Seulement cela se chantait de loin, à cause des doubles muscles. Oh, fragilité des engouements de Tarascon! Le grand homme, lui, feignait de ne rien voir, de ne rien entendre, mais au fond, cette petite guerre sourde et venimeuse l'affligeait beaucoup. Il sentait Tarascon lui glisser dans la main, la faveur populaire allait à d'autres, et cela le faisait horriblement souffrir. Ah, la grande gamelle de popularité, il fait bon s'asseoir devant, mais qu'elle est chaudement quand elle se renverse. En dépit de sa souffrance, Tartarin souriait et menait paisiblement sa même vie comme si de rien n'était. Quelquefois, cependant, ce masque de joyeuse insouciance qu'il s'était par fierté collé sur le visage se détachait subitement. Alors, au lieu du rire, on voyait l'indignation et la douleur. C'est ainsi qu'un matin que les petits décrotteurs chantaient sous ses fenêtres « Lou fusiou de Mestre Gervais !» Les voix de ces misérables arrivèrent jusqu'à la chambre du pauvre grand homme en train de se raser devant sa glace. Tartarin portait toute sa barbe, mais comme elle venait trop forte, il était obligé de la surveiller. Tout à coup, la fenêtre s'ouvrit violemment et Tartarin apparut en chemise, en serre-tête, barbouillé de bon savon blanc, brandissant son rasoir et sa savonnette et criant d'une voix formidable « Des coups d'épée, messieurs, des coups d'épée, mais pas de coups d'épingle !» Belle parole, digne de l'histoire, qui n'avait que le tort de s'adresser à ces petits fouchtras, hauts comme leurs boîtes à cirage, et gentilshommes tout à fait incapables de tenir une épée. 12. De ce qui fut dit dans la petite maison du Baobab. Au milieu de la défection générale, l'année seule tenait bon pour Tartarin. Le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, continuait à lui marquer la même estime. « C'est un lapin » s'entêtait-il à dire, et cette affirmation valait bien, j'imagine, celle du pharmacien Bézuquet. Pas une fois le brave commandant n'avait fait allusion au voyage en Afrique. Pourtant, quand la clameur publique devint trop forte, il se décida à parler. Un soir, le malheureux Tartarin était seul dans son cabinet, pensant à des choses tristes, quand il vit entrer le commandant, grave, ganté de noir, boutonné jusqu'aux oreilles. « Tartarin, » fit l'ancien capitaine avec autorité, « Tartarin, il faut partir. » Et il restait debout dans l'encadrement de la porte, rigide et grand comme le devoir. Tout ce qu'il y avait dans ce « Tartarin, il faut partir », Tartarin de Tarascon le comprit. Très pâle, il se leva, regarda autour de lui d'un œil attendri ce joli cabinet bien clos, plein de chaleur et de lumière douce, ce large fauteuil si commode, ses livres, son tapis, les grands stores blancs de ses fenêtres, derrière lesquelles tremblaient les blanches grêles du petit jardin. Puis, s'avançant vers le brave commandant, il lui prit la main, la serra avec énergie, et d'une voix où roulaient les larmes, stoïque cependant, il lui dit « Je partirai, Bravida !» et il partit comme il l'avait dit. Seulement pas encore tout de suite. Il lui fallut le temps de s'outiller. D'abord, il commanda chez Bompard deux grandes malles doublées de cuivre avec une longue plaque portant cette inscription « Tartarin de Tarascon, caisse d'armes ». Le doublage et la gravure prirent beaucoup de temps. Il commanda aussi chez Tastavin un magnifique album de voyage pour écrire son journal, ses impressions. Car enfin, on a beau chasser le lion, on pense tout de même en route. Puis il fit venir de Marseille toute une cargaison de conserves alimentaires, du pemmican en tablette pour faire du bouillon, une tente abri d'un nouveau modèle, se montant et se démontant à la minute, des bottes de marin, deux parapluies, un waterproof, des lunettes bleues pour prévenir les ophtalmies. Enfin, le pharmacien Bézuquet lui confectionna une petite pharmacie portative bourrée de sparadrap, d'arnica, de camphre, de vinaigre des quatre voleurs. Pauvre Tartarin, ce qu'il en faisait, ce n'était pas pour lui, mais il espérait, à force de précautions et d'attention délicate, apaiser la fureur de Tartarin sans chaud, qui, depuis que le départ était décidé, ne décolérait ni de jour ni de nuit.